22h passées de 35 secondes. Vous êtes sur Europe 1. Tout de suite le journal, Julien Pierce.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Un couac de plus pour Parcoursup, des lycéens acceptés dans des formations se sont vus rétrogradés après coup sur liste d'attente. On entendra la stupeur d'une étudiante concernée ainsi que les explications de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. À moins d'un miracle, Nicolas Sarkozy sera bien jugé dans l'affaire Big Malion. Le Conseil constitutionnel a rejeté aujourd'hui la question prioritaire de constitutionnalité de l'ancien président de la République. Explication d'Aurélie Herbemont dans ce journal. La colère des victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, poursuivi pour 24 empoisonnements, a été laissé libre sous contrôle judiciaire dans la nuit d'hier. Une décision qui nous choque profondément, dénonce l'une de ses anciennes patientes. Emmanuel Macron entre en campagne, en visite à Biarritz pour préparer le G7 qui aura lieu dans la station balnéaire en août prochain. Le chef de l'État en a profité pour pilonner le bilan politique du Rassemblement national en Europe. La visibilité de la conductrice du car était obstruée. Voilà en substance les conclusions des enquêteurs sur le drame de Mias, cet autocar percuté par un train en décembre 2017 dans lequel 6 collégiens sont morts. Benjamin Peter nous détaillera les conclusions de ce rapport. Et puis on ira faire un tour au Festival de Cannes à la fin de ce journal où d'ici quelques minutes sera présentée une version remasterisée du film culte Shining. Côté météo, la journée de demain ne sera pas folichonne, du gris partout et des averses, risque d'orage dans la après-midi, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, mais aussi en Normandie et sur les reliefs de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel reçoit ce soir Alexandre Virose, directeur général de Oui SNCF. C'est le site, vous savez bien, qui a remplacé voyagesncf.com.
Europe 1.
C'est ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Des lycéens qui avaient été acceptés dans près de 400 formations proposées par Parcoursup ont découvert après coup, hier et ce matin, qu'ils avaient été rétrogradés sur liste d'attente. La faute à un bug, à des erreurs humaines, on va y revenir dans un instant. Mais avant, écoutons la réaction de Clara, une lycéenne ce soir totalement désemparée.
J'étais acceptée dans des écoles. Et donc, j'ai reçu un mail comme quoi c'était faux, qu'il y avait eu des bugs et que j'aurais pas dû être acceptée. Et donc, ils ont refusé mes vœux. Donc, je me suis retrouvée sans rien. On savait depuis le début de l'année que Parcoursup, ça marchait pas. Déjà, l'année dernière, ça marchait pas. J'ai peur. J'ai pas, à l'heure d'aujourd'hui, je me retrouve sans rien. Et j'ai l'impression que j'ai plus d'avenir pour l'année prochaine. Je sais pas quoi faire.
Le témoignage de cette lycéenne totalement désemparée recueillie par Victor Dolande pour Europe 1. Venons-en maintenant à ce qui s'est passé. S'agit-il d'un bug informatique de Parcoursup ? Non, répond Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur.
On est vraiment sur une erreur humaine factuelle qui évidemment a des conséquences terribles à la fois pour les jeunes qui sont concernés et pour leurs parents, leurs familles, etc. C'est pour ça que les établissements, dès qu'ils s'en sont rendus compte, ont contacté le ministère pour nous demander de bloquer le système et de pouvoir corriger leurs chiffres.
Combien d'élèves sont concernés ?
J'ai pas de chiffres. Et évidemment, je ne peux que comprendre l'émotion immense d'avoir une réponse positive et de se voir mettre en liste d'attente. Mais c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. C'est quelque chose que, honnêtement, je ne l'avais pas imaginé. Ce sont des erreurs humaines. Malheureusement, les erreurs humaines arrivent. Et mon objectif, c'était que l'ensemble des 14 500 formations puissent être de nouveau opérationnelles dès aujourd'hui.
Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, répondait aux questions de Mathieu Béliard dans votre grand journal du soir. J'ajoute que selon nos confrères des Échos, ce serait plus de 70 000 étudiants qui seraient concernés par ce problème. Un sérieux revers pour Nicolas Sarkozy. Le Conseil constitutionnel a rejeté aujourd'hui le recours de l'ancien président de la République souhaitant échapper à un procès dans l'affaire Big Malion. Souvenez-vous, lors de la campagne pour sa réélection en 2012, l'ex-chef de l'État avait dépassé le seuil autorisé de dépenses de plus de 20 millions d'euros, et ce grâce à un système de fausse facturation. Les explications pour Europe 1 d'Aurélie Herbemont.
Un procès semble quasi inéluctable après le rejet de ce recours. Nicolas Sarkozy avait saisi le Conseil constitutionnel car il estimait avoir déjà été sanctionné pour le dépassement du plafond des comptes de campagne. petit retour en arrière. 2013, son compte de campagne est retoqué pour un dérapage de 363 000 euros. L'UMP doit alors payer une pénalité du même montant et perd le droit au remboursement public de 11 millions d'euros. Il y a alors le fameux Sarcoton pour renflouer les caisses. Ça, c'était avant les révélations de 2014. Le dérapage présumé des comptes serait de l'ordre de 20 millions d'euros via un système de fausses factures. Ce matin, le Conseil constitutionnel estime que Nicolas Sarkozy peut être poursuivi. Pour les sages, la pénalité financière de 2013 visait à assurer l'égalité de moyens entre les candidats. La répression pénale étant là pour sanctionner les éventuels manquements à la probité. Alors Nicolas Sarkozy a encore un ultime recours que la Cour de cassation est en train d'examiner. Ce ne sont pas des manœuvres pour faire durer le suspense, on fait juste du droit, confie son entourage, qui voit comme particulièrement injuste ce qui arrive à l'ancien président.
Les informations d'Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Il n'est pas présent à Pau ce soir pour le meeting de Nathalie Loiseau, tête de liste de La République En Marche pour les européennes, mais ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'entrer en campagne à l'occasion d'une visite à Biarritz pour préparer le prochain G7. Le chef de l'État a profité des micros présents pour dire tout le mal qu'il pense du Rassemblement national et notamment le bilan en Europe du parti de Marine Le Pen. Écoutez.
Plus les Françaises et les Français donnent de la force à la liste de la majorité présidentielle, plus ils donnent de la capacité à la France à peser en Europe, à défendre nos positions. Donc c'est une élection qui reste une élection européenne. Mais moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est pas grave si le Rassemblement national est encore une fois le grand gagnant de ces élections. Il y a 5 ans, il a été le grand gagnant. Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe. Sur tout un tas de sujets, leur bilan est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe. Donc je considère que c'est mon devoir, de là où je suis, d'appeler nos concitoyens à regarder ce qu'a fait ce mouvement politique en Europe. On a plus parlé de lui pour des affaires d'assistants que pour des réussites politiques.
La charge d'Emmanuel Macron au micro européen de Stéphane Place, le président de la République, qui a par ailleurs estimé que le mouvement des Gilets jaunes n'avait désormais plus aucune débouchée politique. C'était l'une des mesures les plus contestées dans la loi Blanquer, le regroupement collège-école pour créer un nouveau type d'établissement des savoirs fondamentaux. Eh bien, le Sénat a décidé aujourd'hui de la supprimer et le ministre lui-même ne s'y est pas opposé. Jean-Michel Blanquer a reconnu un besoin de temps et de maturation.
Le journal de la nuit sur Europe 1.
On en vient maintenant à cette décision polémique. Le médecin anesthésiste poursuivi pour 24 empoisonnements a été placé la nuit dernière sous contrôle judiciaire. Frédéric Péché a donc été laissé libre avec toutefois interdiction de se rendre à Besançon où il a exercé et dans la commune où il réside. Immédiatement, le parquet a annoncé faire appel, mais ce recours ne devrait pas être examiné avant 15 jours. En attendant, les familles des victimes, elles, s'indignent à l'image de Sandra Simard, porte-parole de l'association des victimes présumées du médecin.
Nous sommes profondément choqués de cette décision, compte tenu des charges qui pèsent aujourd'hui contre lui. Il est inconcevable pour nous qu'il reste libre. Et pour cette raison, nous avons envie de demander des comptes à la justice. Pour nous, les victimes, il y a injustice face à cette décision. Nous sommes dans l'incompréhension totale. Que faut-il faire ? Peut-être une manifestation devant le tribunal. Quoi qu'il en soit, et je parle au nom de toutes les victimes, nous voulons obtenir des réponses. Et nous savons que le parquet a fait appel de la décision de remise en liberté. Nous répondrons présents à cet appel, car nous sommes déterminés à nous battre pour que justice soit faite.
Sandra Simard, l'une des victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon, au micro de nos confrères de BFM TV. À 3 jours de l'arrêt programmé des soins de Vincent Lambert, un comité de l'ONU demande à la France de maintenir provisoirement l'alimentation et l'hydratation du patient tétraplégique. Le temps qu'il examine le dossier, c'est ce qu'indiquent les avocats des parents qui ont saisi ce comité. Dans un instant, nous irons à Mias, dans les Pyrénées-Orientales, où en décembre 2017, un car scolaire avait été percuté par un train. 6 collégiens avaient été tués. Un rapport d'enquête dévoilé aujourd'hui pointe des responsabilités partagées. À tout de suite sur Europe 1.
Le journal de la nuit sur Europe 1.
22h10 sur Europe 1, soyez les bienvenus. On en vient maintenant à ce rapport dévoilé aujourd'hui, rapport d'enquête du BEA sur les circonstances qui ont conduit à l'accident de Mias dans les Pyrénées-Orientales. Vous vous en souvenez ? En décembre 2017, un TER avait percuté un quart de collégiens, un drame qui avait fait 6 morts et 18 blessés. Ce rapport, eh bien vous l'avez lu, Benjamin Peter, et ce que l'on comprend, c'est qu'à la fois il contredit la version de la conductrice du car, mais pour autant, il ne l'accable pas non plus.
Oui, il aurait même plutôt tendance à la dédouaner. En clair, ce que dit ce rapport du BEA, c'est d'abord qu'il est très difficile de déterminer si les barrières étaient levées, comme l'affirme la conductrice depuis le premier jour, mais que le scénario le plus probable, c'est que les barrières se sont baissées normalement. En revanche, ce qui est détaillé sur une centaine de pages, c'est que la configuration des lieux n'aurait pas permis de la prévenir de l'arrivée du train. Les sirènes, tout d'abord, elles s'arrêtent de sonner quand elle est à plus de 100 mètres du passage. Elle ne peut pas les entendre. Les feux clignotants, ils sont masqués ou mal orientés, elle ne peut pas les voir. Et le dernier point, c'est que pour aborder ce passage à niveau, la conductrice doit effectuer un dernier virage qui nécessite toute son attention si elle veut éviter le terre-plein central. Et qu'une fois qu'elle a réalisé cette manœuvre, la barrière est dans son angle mort, elle ne peut pas la voir non plus. Le car aurait donc plié la barrière sans qu'elle s'en aperçoive. Le rapport écarte aussi la responsabilité des anxiolytiques qu'elle prenait chaque soir et qui n'étaient pas contre-indiquées. Et le BEA fait donc des recommandations pour renforcer la sécurité de ce passage à niveau en améliorant la signalisation et les conditions d'accès à ce carrefour.
Merci Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Mehdine Mouche est en France depuis 48 heures, condamné au mois de mars à la réclusion à perpétuité dans la tuerie du musée juif de Bruxelles. Le djihadiste français va maintenant avoir affaire à la justice française. Guillaume Bié, la Belgique a procédé à son transfert vers la France en attendant que l'enquête sur les journalistes otages en Syrie soit bouclé.
Oui, c'est l'enquête sur la séquestration et la torture de notre collègue Didier François et de ses autres confrères Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, enlevés en Syrie en 2013 et détenus pendant 10 mois. D'après leur témoignage catégorique, Mehdine Mouche était l'un de leurs geôliers. Ils l'ont formellement reconnu, notamment à sa voix, lui qui chantait du Aznavour, récitait les sketchs des Inconnus, mais qui pratiquait aussi la torture sur les otages et qui clamait son admiration pour Mohamed Merah. Pour ses actes commis en Syrie, Mehdine Mouche n'a pas encore été jugé. L'enquête est entre les mains de juges antiterroristes français, magistrats qui l'ont déjà vu 2 fois, qui l'ont mis en examen il y a 1 an et demi. Mais le terroriste, lui, a toujours refusé de s'exprimer. Alors, pour poursuivre l'instruction en vue d'un probable procès, la France a demandé son transfert en vertu d'un mandat d'arrêt européen. C'est donc fait. Depuis mercredi, il est incarcéré en région parisienne. D'après nos informations, ce sont les gendarmes d'élite d'une antenne GIGN qui l'ont escorté sous haute protection jusqu'à la prison de Mauchecon en Seine-et-Marne.
Les informations de Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1. On en vient à ce témoignage rare, celui d'un travailleur détaché qui se dit victime d'esclavage moderne. 5 Marocains poursuivent devant le tribunal des prud'hommes d'Arles leurs employeurs, des sociétés de fruits et légumes du sud de la France, mais aussi une société d'intérim espagnole qui rédigeait les contrats pour ces entreprises françaises. Yasmine a travaillé pendant 5 ans dans des conditions qu'elle est venue décrire à la barre. Elle a aussi déposé plainte au pénal. Écoutez-la.
On était harcelés moralement, on était insultés. On faisait il y a 2 fois de 8h du matin jusqu'à 9h du soir, avec 30 minutes pour manger. Et il faut que tu travailles très vite, comme une machine. Normalement, le contrat a marqué 35 heures, mais il n'y a personne qui respecte les 35 heures. Il y a un CDD de 6 mois, on fait 1 mois, et le patron français nous vire sans rien payer. Harcèlement moral et après harcèlement sexuel.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on était touchés par notre corps. Si tu couches avec eux, tu arrives à finir ton contrat. Moi, j'étais touchée. J'étais touchée mon corps, ils m'ont touché les seins. Ils t'embrassent à la bouche, à la force. Je me suis sentie pire qu'un animal. J'ai arrivé à un moment que j'ai dit stop. Ça s'appelle le détachement, mais ce n'est pas un détachement. Pour ça, je l'appelle l'esclavage.
Et ça continue aujourd'hui, vous croyez ?
Bien sûr que ça continue. Si ça ne change pas, le système ne va pas arrêter. S'il n'y a pas plus de contrôle, il n'a pas arrêté. Seulement que nous, on avait le courage pour sortir à dire on ne peut plus. Il faut arrêter ça. Il faut changer ça.
Un témoignage édifiant au micro européen de Nathalie Chevance. Le jugement a été mis en délibéré au 4 juillet prochain. Nouveau coup dur pour Tesla. L'une des voitures du constructeur d'automobiles électriques a percuté un semi-remorque aux États-Unis alors qu'elle était en pilotage automatique. Le conducteur a été tué sur le coup. C'est le 3e accident mortel impliquant ce système rendant ces voitures quasi autonomes sur la route. On passe au sport avec la toute dernière journée de Ligue 1 qui arrive bientôt à sa fin au moment où je vous parle. 72e minute de jeu. Tous les clubs jouent en simultané. Metz et Brest ont déjà assuré leur ticket pour la Ligue 1. Ligue 1 la saison prochaine. Les deux clubs s'affrontent ce soir et pour l'instant, ce sont les champions, les Messins, qui l'emportent sur le score d'un but à zéro. Troyes est aussi assuré de terminer troisième. Les Aubois sont donc assurés de jouer les play-offs. En quatrième et cinquième place, eux aussi qualificatifs pour les play-offs. C'est pour l'instant le Paris FC et le Racing Club de Lens qui seraient qualifiés aux dépens de Lorient. Enfin, dans le bas du tableau, Sochaux, pour l'instant, est sauvé. Je vous dis ça en regardant mon écran de contrôle, ce qui n'est pas le cas du Red Star, 20e dernier, et de Béziers, 19e, malgré leur victoire actuellement 3-0 face à Nancy. Pour le moment, c'est Gazec d'Ajaccio qui termine 18e. Les Corses en passent donc de se qualifier pour disputer les barrages pour le maintien.
22h, 22h30, le journal de la nuit sur Europe 1.
Comme promis, nous prenons maintenant la direction de Cannes où d'ici quelques minutes va être présentée aux festivaliers une version restaurée en très haute définition d'un film culte dont vous entendez la musique actuellement, le terrifiant Shining, qui pour l'occasion bien va ressortir en salle dans toute la France le mois prochain, puis en Blu-ray et vidéo à la demande. Virginie Salmen, vous qui êtes à Cannes pour Europe 1, pourriez-vous nous faire revivre l'expérience glaçante de ce film d'anthologie ?
Écoutez juste ça, les cris terrifiants de Jack, le père, incarné par l'immense Jack Nicholson, dont le travail est de garder un hôtel isolé dans les Rocheuses en plein hiver. Il est avec sa femme et son jeune fils, hôtel immense, fermé pendant cette période. Très vite, la solitude et l'isolement commencent à entamer sa santé mentale. Là, Jack est en train de faire un cauchemar et de perdre la raison. La première victime, c'est sans doute son fils, Danny, que son père terrifie à mesure qu'il s'enfonce dans la folie. Un jeune garçon qui a 4 ans seulement au moment du casting. Et c'est Léon Vitali, légendaire collaborateur de Kubrick, qui a dirigé ce très jeune acteur. Il m'a raconté comment il a travaillé avec lui à l'époque.
J'improvisais des situations. Je lui demandais, par exemple... Est-ce que ton papa a déjà été très en colère contre toi ? Est-ce qu'il t'a déjà fait peur ? Et il répondait, oui, je me souviens de moments comme ça. Donc on travaillait sur ce genre de sensations, de sentiments, et je l'encourageais à les exprimer un peu plus, chaque fois un peu plus, toujours en faisant une expérience positive pour lui.
Alors cette version restaurée de Shining sera peut-être encore un peu plus terrifiante parce qu'il y a une impression d'immédiateté avec cette nouvelle image. On est un peu plus dans le film et c'est une version qui est aussi un peu plus longue, 23 minutes supplémentaires d'angoisse.
Oui, on en frissonne d'avance. Merci Virginie Salmen, envoyée spéciale d'Europe 1 au Festival de Cannes. 22h18, bientôt l'heure de faire un point sur la météo de demain avec vous Valérie Darmon, et malheureusement il y aura du gris partout.
Tout à fait Julien, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie, le temps va rester gris mais avec quelques percées du soleil, plus qu'aujourd'hui en tous les cas. Seules quelques averses vont se succéder avec toujours un risque orageux au cours de l'après-midi. De la Normandie à l'Auvergne et à Rhône-Alpes, le temps sera sec mais très nuageux demain matin et puis les averses vont se multiplier avec quelques orages pouvant éclater sur les collines normandes et vers les reliefs d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Sur la Bretagne et le Grand Est, le ciel est très très variable. Les passages nuageux vont alterner avec de très rares éclaircies, plus fréquentes en bord de mer, mais c'est sans garantie. De la région PACA à la Corse, les averses vont se multiplier au fil des heures. De forts orages peuvent même éclater en cours de journée entre les reliefs alpins et le relief corse. Les températures au cœur de la journée, entre 12 à Guéret et 22 à Strasbourg.
Merci pour ce point météo. Valérie Darmon, on vous retrouve à minuit pour un nouveau bulletin.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com et vous ne manquez pas l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui ce soir reçoit Alexandre Virose, directeur général de Oui SNCF. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit sur Europe 1.
22h et bientôt 20 minutes sur Europe 1. Et comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Alors la semaine se termine, Claire, dans le rouge à Wall Street.
Oui, après 3 belles séances de rebond, c'est le retour des inquiétudes. Le Dow Jones se recule ce soir de 0,38%, 25 764 points. Le Nasdaq perd 1,04%, 7 816 points. Alors le problème vient de nouveau de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, un conflit qui pèse beaucoup sur les marchés. Ce soir, Pékin durcit sa position et doute de la sincérité des États-Unis dans leur volonté de reprendre les discussions. Donc c'est un mauvais signal après l'embellie des derniers jours. Mmh. Du côté des valeurs, Pinterest plonge de 13%. Les résultats trimestriels sont décevants pour le réseau social de partage de photos qui est entré en bourse le mois dernier. Moins 2% pour Amazon, le géant du commerce en ligne entre au capital de Deliveroo, le livreur britannique de repas. Et puis sanctions aussi pour Tesla, moins 7,6%. Elon Musk, le patron du fabricant de voitures électriques, veut couper dans les coûts de l'entreprise avec un nouveau plan d'austérité. Et puis vous en parliez dans le journal, il y a aussi eu un accident qui pèse sur le titre ce soir. Le pétrole termine en baisse de 0,2%, 62,76 $ le baril WTI. Et puis l'euro perd 0,1%, 1,1161 $.
Quant au CAC 40, eh bien, il n'est pas parvenu ce soir à terminer dans le vert.
Non, le CAC 40 a connu une séance plutôt erratique et c'est finalement une clôture en baisse, moins 0,18%, 5438 points. La valeur du jour à Paris, c'est Vallourec avec un titre qui flambe de 8,4%. Le fabricant de tubes en acier a publié des résultats en nette amélioration au premier trimestre avec une réduction de sa perte. Ça monte aussi pour ADP, Aéroport de Paris, plus 1,2. Le Conseil constitutionnel a validé la majorité des articles de la loi Pacte sur la croissance des entreprises, y compris les privatisations du groupe ADP et de la Française des Jeux.
Enfin, pour terminer, Claire, une séance encore compliquée pour le secteur automobile.
Donald Trump a pourtant repoussé de 6 mois les droits de douane qu'il veut imposer sur les voitures et les pièces détachées importées d'Europe, mais pas d'effet positif pour les équipementiers Valeo et Faurecia qui perdent plus de 1%. Et puis une séance encore négative pour Renault qui lâche 0,6% et qui a chuté de 7% sur la semaine. Le constructeur souffre des difficultés financières de son partenaire japonais Nissan. Nissan qui lui a bien du mal à gérer la crise provoquée par la disgrâce de Carlos Ghosn. Les bourses européennes ont terminé en baisse, moins 0,1% pour Londres et moins 0,6% pour Francfort. Madrid moins 0,3%, Milan et Amsterdam moins 0,2% et le CAC 40 perd 0,2%, 5438 points.
Merci à vous Claire Lemaître de Boursier.com pour toutes ces infos bourse. Très bon week-end à vous.
Vous aussi.
Bonsoir Alexandre Virros.
Bonsoir Emmanuel.
On est avec vous sur...
L'invité éco avec laposte.fr/pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise.
Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir, on vient de l'entendre, Alexandre Virros, directeur général de Oui SNCF.
Bonsoir Alexandre Virros.
Bonsoir Emmanuel.
On est avec vous sur le salon Vivatech. Alors pour ceux de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas encore, c'est le grand salon. C'est devenu le grand salon de l'électronique grand public, on va dire comme ça, des nouvelles technologies en France. Vous êtes à la tête de Oui SNCF. Là aussi, on ne le sait pas toujours. C'est le premier site de e-commerce en France, créé en 2000. Vous êtes parmi le monde de la technologie finalement un vieux mastodonte. Pourquoi vous avez encore besoin d'être là sur un salon comme Vivatech ?
On est là parce qu'on a un rôle essentiel dans l'écosystème technologique et digital français. Et Vivatech, dans sa construction, est intéressant à ce titre parce que c'est important de rappeler qu'en France, les grands acteurs historiques, comme vous le faisiez tout à l'heure, ont eu un rôle essentiel dans la dynamique du digital. Il y a les startups, c'est formidable, elles sont très effervescentes. Il y a les GAFAM dont on parle, c'est très bien, ça tire le niveau vers le haut. Mais les acteurs historiques français et la SNCF au premier chef, qui a créé son site internet en 2000, sont parmi les acteurs qui ont propulsé l'internet français à son niveau aujourd'hui.
Mais ici, quand on fait partie du groupe SNCF, on se sent vieux, on a besoin d'être un peu dynamisé.
Alors, je reconnais votre malice, mais pas du tout. Je pense que j'ose penser qu'on dynamise nous pas mal. On est en avance sur beaucoup de technologies. On a nos propres équipes d'intelligence artificielle. On n'a pas d'ailleurs besoin d'être vitalisé. Nos équipes sont très jeunes. On a 150 personnes qui travaillent sur l'intelligence artificielle et la data. On développe beaucoup de choses en conversationnel. On a été parmi les premiers en France, mais aussi en Europe, à développer des solutions qui sont à nous. Donc, je pense au contraire, et je le dis en toute modestie, qu'on fait partie des gens qui créent de la vitalité, de la dynamisme dans ce système.
Alors, c'est vrai qu'on aime beaucoup critiquer la SNCF, mais peut-être que peu de nos auditeurs savent que quand le site a été créé, à l'époque, voyagesncf.com était sûrement l'un des tout premiers sites aussi compliqués au monde. On avait inventé de pouvoir cliquer, choisir sa destination, le sens dans lequel on voulait être, etc., etc. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est de pouvoir justement discuter avec des robots. Quand vous êtes venu ici à Vivatech l'année dernière, c'était un peu le grand temps fort. Finalement, est-ce que c'est vraiment encore le cas ?
Aujourd'hui, Oui SNCF, l'app SNCF se veut extrêmement simple, payer en quelques clics, reconnaître le client, proposer une lecture simple de ce qu'on appelle les parcours clients. Il y a des robots à différents endroits. Vous faites sans doute référence à ce qu'on appelle des bots, des robots digitaux, des bots conversationnels. Ça veut dire qu'au lieu de remplir simplement un formulaire, eh bien, on parle avec ce robot. Donc, c'est plus informel. C'est comme
une langue naturelle. Mais ça marche aujourd'hui ?
Ça marche très bien. Ça démarre très vite. La croissance est très forte. Et pour moi, c'est une évolution comparable à ce qu'on a connu sur le mobile. Derrière votre question, j'entends un peu le scepticisme, mais je vais vous dire une chose. Il y a 10 ans, quand on commençait à parler du mobile et des apps mobiles, il y avait la tribu traditionnelle des sceptiques qui pensaient que ça n'allait jamais marcher, que ça permettrait jamais de faire du commerce. Et aujourd'hui, 10 ans après, il y a un cimetière entier d'e-commerçants qui n'ont jamais pris le virage du mobile. Oui, SNCF, à l'époque, voyagesncf.com l'a pris. Aujourd'hui, il y a 75% de notre trafic qui est mobile. Donc, je pense qu'on a bien fait de défier les sceptiques de l'époque et d'avoir des convictions très fortes. Aujourd'hui, le conversationnel, et c'est plus généralement ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle, c'est une révolution d'ampleur comparable. C'est important qu'on y soit, c'est important qu'on comprenne la technologie. Puis, je le répète, on développe à plein d'endroits notre propre technologie. Ça veut dire qu'on considère que c'est suffisamment stratégique pour que ce soit à nous.
Mais de façon très concrète, qu'est-ce que ça change véritablement dans le lien que vous avez avec le consommateur et qu'est-ce que ça change pour moi, consommateur, sur un site comme WeSNCF ?
Ce que ça peut changer, c'est que par exemple, sur notre propre site, vous pouvez discuter avec le bot et simplement lui dire « je voudrais partir, mettons, à Bordeaux demain » et vous avez une interaction qui est plus simple et qui est moins ennuyeuse que simplement de remplir un formulaire. Et ça, c'est la première chose. Il faut aussi se projeter dans le monde de demain où finalement, tout simplement en lui parlant, il pourra pré-réserver pour vous. Puis vous aurez juste à vérifier que tout va bien et à cliquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, et ça, c'est comme le mobile, c'est qu'on a une sous-communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes qui sont des très très gros utilisateurs du canal conversationnel. Après, il y a la vente, mais il y a aussi tout ce qui est le service, parce qu'on a des questions sur sa réservation. Ça, le conversationnel, c'est très utile.
Vous le rappeliez, hein, vous dirigez le digital pour le voyageur au sein du groupe SNCF. Le plus important pour nous, et ce qui est peut-être l'évolution à côté de l'intelligence artificielle la plus importante, c'est qu'on ne réserve plus qu'un billet de train sur l'application, bien loin de là. On peut réserver son scooter, bientôt on pourra réserver son bus, etc. etc. C'est ça aussi l'avenir d'un site comme le vôtre.
Tout à fait. Et là c'est vraiment e-voyageur SNCF. C'est comme vous le savez, on développe en parallèle cet assistant SNCF pour aider les Français dans leur trajet du quotidien. Et ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'avec une seule et même application, vous allez pouvoir aller d'un point A à un point B avec n'importe quel mode de transport parce que nous, on mettra notre technologie au service en fait, du client final. On est prêt à la partager avec des partenaires précisément pour rendre plus facile la façon...
Vous êtes obligé en même temps. Si vous restez que sur votre train, vous êtes mort.
Vous savez quoi ? On est tous obligés à une chose, écouter l'intérêt de notre client. Parce que ce que le digital a changé, c'est qu'il a renversé le rapport de force et il donne le pouvoir au client.
Vous êtes un peu obligé.
Non, on est obligé d'être bon et on est obligé d'être service à nos clients. Et vous savez quoi, c'est une très bonne nouvelle.
Est-ce que vous êtes bon pour cet été ? Est-ce qu'il y a du monde là qui réserve ? Parce qu'il y a pas mal d'indications du monde du tourisme qui dit que l'été se présente extrêmement bien, mieux que l'année dernière.
Écoutez, quand nous on regarde le train et le ferroviaire, on voit que les Français restent extrêmement attachés au train. Donc la réponse est oui, ça se passe très bien.
Mais la question était, est-ce qu'ils le prennent plus que l'année dernière ?
Ils le prennent beaucoup plus que l'année dernière.
Beaucoup plus ?
Beaucoup plus que l'année dernière.
C'est-à-dire combien de pourcents ?
On ne communique pas tout de suite sur ces chiffres-là, mais on est sur des croissances à deux chiffres. Alors vous savez que c'est un peu atypique, puisque l'année dernière, on repasse sur des périodes de grève. Donc évidemment, ça, il faut le corriger. Mais même corrigé de cet effet-là, on est en croissance très forte, avec des belles destinations. Paris-Bordeaux qui est toujours évidemment au top de la liste. Donc ça, c'est pour la partie consommation. Mais aussi les autres destinations qui marchent très bien. Autre phénomène qu'on voit, alors ça, il est un peu tôt pour qu'il se vérifie, mais on l'a vu même sur le printemps et sur les longs week-ends, c'est évidemment la dernière minute qui continue de progresser très fortement. C'est
un
comportement
de consommation. Et là, la météo est un élément totalement indispensable.
Et la météo est un élément indispensable, donc il ne fait pas toujours très beau, mais on voit que les gens sont optimistes, puisque ceux qui préparent longtemps à l'avance, eux aussi, continue de progresser.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre Véroz, donc à la tête de e-voyageurs, à la division digitale pour les voyageurs de la SNCF. À lundi, 22h20.
Merci à vous Emmanuel Dutheil, effectivement, à lundi.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour se démarquer. Imprimez des timbres avec le logo de votre entreprise en toute simplicité.
On en vient maintenant aux unes de vos quotidiens, les sujets que nos confrères de la presse écrite ont décidé de mettre en avant et que vous découvrirez demain dans vos kiosques. On commence avec Libération et cette question européenne, le chamboule tout entre les poussées populistes, écologistes et centristes, le face-à-face entre sociaux-démocrates et droite modérée qui cogèrent le Parlement européen depuis les origines pourrait enfin, selon Libé, être bousculé par le scrutin du week-end prochain. Les européennes également à la une du Figaro de demain, emploi, immigration, climat, les progrès. Programme au banc d'essai. À une semaine maintenant du scrutin, le journal a passé au crible les propositions des principaux candidats. Conclusion, l'environnement et l'avènement d'une Europe qui protège occupent une place centrale. L'éditorialiste du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, regrette pour sa part une campagne européenne aussi courte que le grand débat fut long. Alors certes, cela fait des semaines maintenant que les candidats labourent le terrain, tiennent des meetings, font des interviews dans la presse, à la radio ou en plateau télé. Mais aujourd'hui, le constat est implacable, dit-il. Tout le monde s'en moque. Un tel désintérêt devrait nous inquiéter, car je cite, on ne vote pas comme on like négligemment sur un smartphone. La démocratie exige que l'on se renseigne, que l'on compare, que l'on réfléchisse avant de choisir. Voilà pour ce rapide tour de la presse que vous découvrirez demain dans vos kiosques. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie ce soir de Sabine Marin pour la Libre Antenne.
Bonsoir Julien.
Bonsoir à vous.
À tout à l'heure, dans une demi-heure pour un nouveau point.
Absolument.
Ça marche, à tout à l'heure.